Alors, on va procéder comme suit. Je parle en premier de ce que je connais de la situation à Bure, c'est-à-dire plus ou moins la période de 2016 à 2018, s'ensuit toute la période de répression, et aujourd'hui je vous donne quelques nouvelles. Je te vois plisser les yeux extrêmement fort, est-ce que je parle trop fort? Non? C'est pas ça? Ça va le son? Ah. Ensuite, Gilbert, tu parles des déchets nucléaires? Donc on va se partager ce temps-là tous les trois et je propose que les questions-réponses, elles se fassent après chaque prise de parole. Je m'appelle Céline, j'ai rencontré la lutte à Bure en 2016 en allant dans une AMAP. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est l'AMAP qui m'a radicalisée. Et je n'étais pas du tout au courant de... J'habitais dans la Meuse depuis 6 ans, je n'étais pas du tout au courant de ce projet d'enfouissement. Quand je suis arrivée là-bas, c'était donc Bure quand même, la poubelle, donc la fin de la filière du nucléaire. Le projet, c'est d'enterrer dans l'équivalent du métro parisien à 500 mètres sous terre. Alors moi, ça me fait toujours bizarre parce que ça me paraît incroyable. Enfin, ça me paraît même impossible. En tout cas, c'est des kilomètres et des kilomètres de galeries pour enterrer les déchets haute activité à vie longue. En gros, c'est des déchets hyper toxiques, le plus toxique qui soit. Ils sont en quantité moins importante que tous les autres. Par contre, ils sont beaucoup plus dangereux, et ce, sur une durée de 100 000 ans. Donc, c'est la demi-vie, c'est la durée. C'est des durées qui posent des questions de sécurité sur 100 000 ans, quoi. Comment on parle aux générations futures, etc., etc. Donc, l'idée... De l'enfouissement, c'est de faire voilà, ce trou à 500 mètres sous terre avec des déchets qui sont dans des barils entourés de bitume, sauf que les barils ont la possibilité de s'enflammer à un moment donné et rejettent de toute manière de l'hydrogène. Donc ils se sont dit qu'ils allaient faire des cheminées pour que l'hydrogène radioactif il puisse se dissoudre un petit peu dans l'atmosphère au fur et à mesure. Il ne peut pas rester confiné sous terre. Au risque voilà, d'exploser et de prendre feu. Donc, du coup, l'idée, elle est venue, j'imagine, parce qu'il était plus possible de les jeter au large de la Somalie, que le fait de les envoyer dans l'espace a été jugé trop dangereux en cas d'accident de fusée, évidemment. Et du coup, chaque pays européen a eu l'obligation, à un moment donné, de proposer un stockage sur son territoire. En Allemagne, c'est Gorleben. En Finlande, c'est Pyhäjoki. C'est des projets qui sont déjà construits, mais où les déchets ne sont pas encore descendus. Nous, on est dans la phase un tout petit peu avant, où il y a le laboratoire de recherche, l'ANDRA, mais il n'y a pas encore, à part la galerie test, là, qui s'est déjà effondrée une fois, d'ailleurs, il n'y a pas encore tout le système là, racinaire du projet. Donc du coup, pour vous dire, moi, en 2016, quand je suis arrivée, ils commençaient à raser la forêt pour installer ces fameux puits d'aération-là, c'est-à-dire les cheminées par lesquelles l'hydrogène il pourrait ressortir. Et donc du coup, c'est toujours un petit peu le même procédé là, où c'est de laisser une ceinture de forêt autour, pour faire croire toujours que la forêt existe, mais en fait, tout raser à l'intérieur sur les 220 hectares pour implanter les fameuses cheminées. Du coup, on est parti là-bas pour faire une première occupation avec un quarail. Donc c'est un mot lorrain pour dire un espace de réunion, de vie, etc. Donc on a commencé à faire des réunions, etc. Mais ça n'a pas tenu longtemps parce qu'au bout de 3 semaines, on s'est fait virer. Et pour pas qu'on revienne, ils ont construit un mur d'un kilomètre et demi de long, un mur d'enceinte comme ça, là, pour ceinturer la forêt, pour nous empêcher mécaniquement d'entrer, j'ai envie de dire. Et du coup, on a attaqué en justice, il s'est avéré que la construction du mur avait été faite sans autorisation préalable, etc., et a été jugée illégale par le tribunal de Bar-le-Duc. Et donc, du coup, on avait décidé le 15 août d'aller attaquer ce mur. Bon, on s'était dit qu'on allait plutôt se confronter avec les flics, du coup. Mais comme le mur était illégal, ils se sont dit on va pas défendre un truc illégal, etc. Donc il n'y avait pas de flics. Donc du coup, ça nous a permis, hop, avec toute la manif, d'aller péter les pans de mur. S'il y avait des personnes qui étaient, c'était assez rigolo, assez sympa. On a réoccupé ce jour-là la forêt et on s'est auto-expulsé nous-mêmes parce qu'on n'était pas du tout assez nombreuses pour garder la forêt. On s'est dit ça va mal finir cette histoire. Donc du coup, on est rentrés finalement et on a relaissé la forêt occupée par des rondes de flics, etc. Jusqu'à temps que, je sais pas, qu'ils relâchent un peu leur vigilance, j'en sais rien, jusqu'à temps que la deuxième occupation démarre. Et là, on a décidé par contre de faire l'occupation la plus effrayante possible, avec les barricades les plus immenses possibles et les pièges les plus ingénieux possibles. Donc des bouteilles de gaz vides, des troncs d'arbres suspendus à un autre arbre avec une corne pour faire penser que si on le coupait, le tronc tomberait sur, etc. Enfin, des pièges machiavéliques, comme vous en doutez. Des trous, le bon vieux piège du trou, hein, c'est-à-dire un trou creusé recouvert par une bâche avec des feuilles dessus. Ne le faites pas. Non, c'est dangereux plus pour nous finalement. En fait, tous ces pièges évidemment n'ont pas marché, mais l'idée c'était quand même de montrer une opposition hyper forte, hyper ferme, hyper intense, hyper émotionnelle par rapport à cette forêt qu'allait être rasée, qui va potentiellement, enfin, l'avenir nous le dira quoi. Donc du coup, effectivement, comme ils disent eux, des radicaux internationalistes de l'Europe, etc., sont venus nous rejoindre. La vérité, c'est qu'il y a des potes de Gorleben qui sont arrivés, des potes de Suisse, des potes de Belgique, un petit peu de Finlande également, puisqu'ils ont connu une occupation, alors eux, dans la glace, carrément. Et nous, on était plutôt dans la boue, finalement. Il y a eu les périodes des grandes manifestations, où là, effectivement, fort de toute cette... De tous ces camarades qui sont venus rejoindre, il y avait évidemment une lutte historique sur place avec des assemblées d'élus, avec des punks anarchistes, avec voilà. Et l'objectif finalement de toutes les manifs, c'était toujours d'essayer de, c'était le laboratoire, la construction visible, le symbole, l'ANDRA de l'Agence nationale des déchets, de gestion des déchets radioactifs. Et donc du coup, la plupart pendant des années, il était possible d'encercler, par exemple, ce laboratoire en faisant des chaînes humaines autour. Il était possible d'organiser un concert punk devant et de jeter plein de trucs sur les grilles. Enfin, voilà, il était possible de faire des trucs. Et au fur et à mesure de la radicalité, évidemment, c'était de plus en plus dur, c'est même pas d'atteindre cet objectif, mais en tout cas de se rapprocher du laboratoire, parce que les flics déployaient des moyens de plus en plus colossaux. Pour nous éviter de manifester et d'approcher du laboratoire. Mais du coup, il y a eu des gros appels à manif qui ont permis des grands rassemblements, mais avec une confrontation de type rural, j'ai envie de dire, avec la police, qui fait évidemment écho à ce qui s'est passé le week-end dernier à Sainte-Soline, avec des keufs en roue libre qui balancent des grenades en cloche, qui... On n'est pas du tout dans les mêmes configurations. C'était même le slogan d'une banderole. Attention, c'est du rural, parce qu'on avait entendu les keufs dire ça dans leur talkie-walkie. Et donc, du coup, ça donne des situations extrêmement dangereuses de combats de champs comme ça, avec des champs qui crament parce que les palets de lacrymo, ça met le feu... au champ du voisin, enfin du voisin, du paysan du coin, et ça donne des blessures extrêmement graves. Voilà. Donc il y a eu trois manifs importantes. Celle de février, où l'attaque, en gros, c'est plutôt concentrée sur le musée, c'est pas le musée, comment ils appellent? Ouais, ils font une espèce de conservatoire où ils vont conserver des espèces, ils vont cryogéniser des espèces de la Meuse pour qu'un jour on se rappelle qu'il y avait peut-être des espèces vivantes à cet endroit-là. Et c'est un endroit qui est visité par toutes les écoles du coin, par tous les collèges du coin. Il y a des gosses là-bas qui l'ont visité 3 fois, peut-être, ce truc de l'atome c'est super, etc. Enfin, toute cette propagande-là. Il y a eu. Enfin, là, je suis en train de vous dire ces manifs, c'est parce qu'en fait, suite à cette manif. Suite à ces manifs, en fait, on s'est rendu compte qu'on était surveillés, évidemment, écoutés, suivis. Donc écouter, c'est écouter en temps réel. Bon, c'est des courtes durées, mais pendant 4 mois, tu es écouté 24 heures sur 24, analysé, etc. Suivi, c'est des traceurs sous un véhicule, en tout cas. Et voilà, et en fait, on ne le sait pas encore, mais toute cette période-là, elle est déjà observée, scrutée par la cellule BUR, en fait, une cellule qu'ils ont montée spécifiquement pour les actions qui se déroulaient à ce moment-là. Et ensuite, on a été... il y a eu un grand coup de filet, en fait, quoi. Et donc, du coup, on a été une dizaine à être mis en contrôle judiciaire pendant 2 ans, avec interdiction de se voir, interdiction de quitter le territoire national, interdiction de certains départements. Ça a été une période très douloureuse. Moi, pour vous dire, moi, par exemple, ce que j'ai ressenti à ces moments-là, c'était des... J'entendais les sirènes de la police quand il n'y avait pas la police, par exemple. C'était un de mes symptômes que j'avais la nuit ou alors en plein milieu de la journée. Des fois, t'es bien obligé de traverser le département. Moi, j'étais interdite de Haute-Marne. C'est la route la plus droite pour aller à Paris. Donc, c'est vrai que ça donne des situations hyper inconfortables où tu te dis, là, je suis juste en train de rouler sur la route. Potentiellement, si je suis arrêtée, je suis en rupture de mon contrôle judiciaire. Ça nous est arrivé aussi de se voir furtivement avec des personnes qu'on n'avait pas le droit de voir et pas le droit de rentrer en communication parce que tu sais, vu que tu communiques pas avec la personne, tu sais pas qu'elle sera là et tu la vois. Donc, ça donne des situations hyper horribles où tu peux pas dire bonjour à un camarade qui est là parce que c'est interdit par la loi, etc. Donc ça a été des périodes compliquées. On a fait 3 jours de procès il y a 2 ans, à Bar-le-Duc. Et c'était hyper festif, c'était hyper joyeux, mais on a été condamnés. Il y a eu... Ouais, malheureusement, on a été condamnés. Ça a été des gros sursis. Ça a pu aller jusqu'à un an de sursis, avec un an ferme aussi pour un camarade. Et sinon, c'était des 6 mois, des 8 mois. Et donc, ça coûte un pognon de dingue aussi, il faut le savoir. Là, c'est cher de se défendre et tout ça. Et on a eu l'appel il n'y a pas longtemps. On a eu l'appel il y a quelques mois où on a été 4. Il en restait plus que 7 personnes poursuivies et condamnées. Et on a été 4 à être relaxées. Donc si on se remet bien, c'est-à-dire que depuis 2018, qu'on a été mis en instruction, mis sous contrôle judiciaire, etc., 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 à la fin, il ne reste plus rien. Ils nous ont fait un tarnac. Enfin voilà, on se retrouve dans cette grande histoire de répression. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que pour les événements autour des soulèvements de la Terre, il est déjà en train de se tramer la répression contre eux à un moment donné. Voilà, donc la différence avec Tarnac, c'est qu'ils leur avaient carrément sorti l'anti-terreau, etc. Vous connaissez l'affaire Tarnac, c'était il y a 10 ans maintenant, je pense, même plus, 15 ans. Il y a un film qui sort le 5 avril, qui s'appelle Relax, et qui raconte leur histoire judiciaire. J'ai vu ça tout à l'heure, ça a l'air, voilà. Nous, ils nous ont pas fait l'anti-terreau, ils nous ont fait l'association de malfaiteurs. Et ils ont dépensé énormément d'argent autour de ce truc-là, pour qu'au final... On soit pas condamné ou alors très peu, c'est-à-dire que les derniers qui sont condamnés, il leur restait un petit 4 mois de sursis simple. C'est pas mal à force d'une défense concrète, solide, avec des avocats hyper investis et hyper passionnés par le dossier et tout ça, ça a permis quand même de tellement dégonfler leur truc, de plus tenir jusqu'en appel. Sauf que Alliance a été chouinée dans son journal en disant « Ah, c'est trop injuste que les militants militaires ils soient pas, condamnés après tout le travail qu'on a fait, etc. » Et que du coup, la procureure de Nancy a fait appel de la décision et que maintenant on monte en cassation. Là, on a appris ça il y a quelques semaines.
L'acharnement,
pas envie de perdre la face, je sais pas. Par contre, alors là, c'est un autre univers qui presque ne nous concerne plus, hein, parce que la cassation, on va être obligé de changer d'avocat, on va pas y aller directement, on va pas vraiment faire une mobilisation comme on a pu faire jusqu'à présent en première instance et en appel. Ça va prendre... Alors, on a demandé dans quel délai ça allait intervenir. La justice nous a répondu que dans les textes, il est marqué que l'appel en cours de cassation, il doit intervenir dans des délais raisonnables. Ça ne nous a pas du tout rassurés. Non, on s'est dit, voilà. Et si vraiment on n'arrivait pas à renouveler cette relaxe, eh bien, on irait à la Cour des droits de l'homme. Parce qu'on ne lâchera pas l'affaire, on le sait depuis le début, on est restés soudés, et on sait depuis le début qu'on ne lâchera pas l'affaire avec ce truc-là. Mais ça a été extrêmement chronophage, extrêmement long, en plus de tout un tas d'autres traumatismes plus ou moins liés, plus ou moins directs. Voilà, moi, la période que j'aime bien parler, c'est de l'occupation de la forêt, parce que c'était très fort, parce que c'était des cabanes dans les arbres à 40 mètres de haut, et que c'était une manière d'exprimer une contestation de manière assez concrète, finalement, avec on balançait des brochures anti-nucléaires sur les vigiles qui nous surveillaient en bas des fois, comme ça. On se disait au moins, peut-être qu'ils vont la lire. Mais c'était des moments chouettes, c'était des moments forts, c'était des beaux moments. L'expulsion, bah voilà, tu vois, enfin, moi personnellement, j'ai rien vu venir, il est 6h du matin, je sais plus combien ils étaient, je sais juste qu'ils étaient extrêmement nombreux et que l'expulsion, c'est un moment que t'attends tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que y a un espèce de fantasme, une romantisation autour de ce jour, le jour de l'expulsion. Et puis, bah, quand ça arrive, en fait, finalement, c'était pas aussi. Aussi flamboyant, j'imagine, voilà, que ça aurait pu l'être, ou dû l'être, je ne sais pas. Si vous avez envie que je vienne sur un sujet particulier, vous me dites, mais sinon, voilà, je suis prête à répondre à des questions. Ah non, j'ai oublié de vous dire les actualités et le peu que j'en connais, puisque maintenant, j'y habite plus, mais je suis quand même en contact avec les gens là-bas. La grosse manif qui devait se dérouler le 3 juin à Bure, vu tout ce qui est en train de se passer, ça complique énormément l'organisation et... Yael se pose la question de la déplacer sur Paris. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler de la manif du 3 juin. C'est très compliqué là en termes d'orga. Donc on attend un peu les nouvelles. Il y a un bar qui devrait venir à Trèvre. En fait, la lutte, elle s'est implantée dans plein de petits villages autour, bah, comme on peut voir à Gorlébonne, etc. C'est-à-dire que maintenant, les gens ils sont dans une inscription dans la durée. On est moins dans le pic là, qu'il y a eu... en 2016-2018. Donc il y a des collectifs de maraîchage, les semeuses. Il y a, c'est pas une maison du peuple, quoi, mais il y a des bars associatifs qui se montent autour, dans les villages autour. C'est les nouvelles que j'ai, qui sont plutôt bonnes, avec, voilà, toujours pareil, d'organiser... je sais qu'ils sont partis en Ukraine plusieurs fois pour faire des convois, je sais que, voilà, il y a toujours une mobilisation. Voilà, je vous donne le micro.
Oui, je te remercie pour ton intervention. Et je pense qu'il faut vraiment que tu insistes sur cette association de malfaiteurs qui n'existe pas d'aujourd'hui, mais qui s'utilise de plus en plus, qui permet aux flics, enfin, tu es bien placé pour le savoir, de faire tout ce qu'ils veulent ouais. pendant toute une période, et même si ça termine par un lieu, ils n'en ont rien à foutre. Ouais. Et je voudrais quand même que tu insistes sur le... Enfin, tu l'as dit, mais... ça a été très dur pour les gens qui pouvaient, enfin, qu'on ait une malfaitrice qui pouvait plus voir son fils, enfin, toutes ces histoires-là, c'est scandaleux, quoi. C'est vraiment, enfin, je sais pas, quand on parle de démocratie, moi j'appelle ça démocrature.
Mais moi, ce qui m'a surpris dans l'ampleur des moyens, c'est que, enfin, tu t'attends pas à être une personne d'intérêt pour la police. Enfin, moi, ça a été. C'était mes premières manifs, j'ai découvert la brutalité policière, j'ai découvert des trucs politiques hyper intéressants en même temps, et aussi j'ai découvert que tu pouvais vite te retrouver dans les mailles de la répression. En fait, j'imaginais pas à quel point, enfin, jamais dans ma vie j'aurais cru que j'allais être mise sur l'écoute, interdite de quitter le territoire national. Donc bon, je m'en fous, c'était le Covid en vrai, c'était tout le monde pareil. Mais j'ai eu un contrôle judiciaire pendant 2 ans. Enfin, ça m'a perturbée. En fait, ça m'a perturbée énormément. C'est ultra douloureux de voir sa vie écrite, tous ses comptes en banque relevés depuis. Je crois qu'ils ont relevé sur 10 ans en fait toutes mes opérations, tous les fichiers. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris. J'ai refusé de donner mon ADN avec le test classique, c'est-à-dire de prendre dans l'intérieur de la joue là. Ils ont pris ma serviette, ils ont pris mon ADN dans mes règles et ils m'ont présenté devant le juge d'application des peines sans culotte et sans protection hygiénique alors que j'avais mes règles. Enfin, on est vraiment sur des trucs, des techniques psychologiques qu'ils utilisent contre toi en te parlant d'événements douloureux de ta vie d'une manière un peu perverse, j'ai envie de dire, en tout cas pour te déstabiliser. Et ben voilà, il y a eu vraiment des moments qui ont été éprouvants. Je parle que de mon expérience parce que c'est de ça que je peux vous parler aujourd'hui et témoigner aujourd'hui. Mais en vrai, ouais, ça a été dur. Ils passent ton profil dans un logiciel, un algorithme qui s'appelle Anacrim. Donc, ils te montrent, par exemple, les procès auxquels tu as assisté pour aller voir des potes qui étaient en procès. Donc, c'est de la solidarité. T'as le droit, déjà, c'est pas une infraction. Mais tout d'un coup, tu te dis, ah bah dis donc, ils savaient que j'étais ce jour-là, à tel jour, ce jour-là. Parce que ce qu'ils essayent de prouver dans l'association de malfaiteurs, c'est qu'on était coordonnés, amis, et qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Donc, du coup, ils sont obligés de démontrer que, bah voilà, t'es allé au procès de machin. Ça veut bien dire que tu... que tu le connais. Ou, tu vois, ils essayaient de criminaliser, c'est ce qu'on a fait que de répéter pendant tout le temps de l'instruction, de criminaliser la moindre opposition, quoi. Il y en a d'autres, des trucs, des détails, enfin pas des détails, mais des anecdotes symboliques et signifiantes sur le procès. Il y en a plein, il y en a eu plein, ça a été hyper dur en vrai. C'était un scandale, en vrai c'était un scandale.
Alors est-ce qu'on m'entend ? Oui. Vous dites qu'on vous a mis sur écoute, et c'était pas juste de l'écoute téléphonique quand vous faisiez 3 appels par jour, non, c'était sur 24-24. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour mettre sur écoute ?
Alors, moi, je suis pas une... Alors, déjà, moi, j'ai été mise sur écoute que 3 mois et non pas 4, parce que le premier mois, ils se sont trompés d'un chiffre dans mon numéro de téléphone et ils ont écouté quelqu'un d'autre. Dommage. Au bout d'un mois, ils ont dû se dire, c'est pas elle. Je pense que c'est pas elle. Et du coup, sur le relevé, il y avait marqué... Je crois que c'est un truc, parce qu'on était localisés également. Donc, en fait, il y avait les personnes que j'appelais le plus souvent. Donc là, J'ai remarqué que la personne que j'appelais le plus souvent, c'était ma mère. J'étais là, ok. Et voilà, et donc ils classent les personnes d'intérêt. Et après, ils t'écoutent. Moi, mes écoutes, elles se sont révélées inintéressantes pour le dossier. Ils ont relevé 2-3 trucs. Mais je crois que c'est... Ils ont relevé des textos quand j'étais partie en vacances de ma barricade dans laquelle j'habitais, où il y avait des potes qui me disaient... Ah, les rats grossissent bien, haka bisou. Et ils ont relevé le haka bisou comme étant un signe de qu'elle aime pas les flics, celle-là, dis donc. Hein. Voilà, on était sur de la preuve lourde, hein. On était sur vraiment de l'efficacité de la gendarmerie. Donc je sais pas le procédé, si tu veux. Je sais que par contre, ils ont récupéré nos cartes SIM et nos numéros de téléphone en posant une valise de IMSI Catcher à un procès. Et que ça a fait scandale parce qu'en fait, le juge qui a demandé cet IMSI Catcher, il n'avait pas le droit de le faire pour des raisons juridiques, des raisons légales, en fait, parce qu'il était... ce jour-là, il prend le numéro de téléphone, pas que des militants, il prend tout le tribunal, il prend tout le monde, enfin, les avocats, etc. Il y a eu l'avocat aussi qui a été mis en examen et qui a été perquisitionné, alors que c'est pas possible comme ça, normalement. Donc, du coup, je sais que, voilà, c'était localisé, on était écoutés, que les discussions étaient analysées pour dire... si, moi, il y avait quand même 2-3 petits trucs de dire... moi, il me reprochait d'informer... ça n'a pas tenu, au final. Hein, mais il me reprochait d'informer les gens qui avaient des voitures de police à tel ou tel endroit. Donc ça veut dire... Ouais, mais en fait, en vrai, ça veut dire quand même que tu t'essayes de tenter de te soustraire à des opérations de police. C'est ça qu'ils essayaient de démontrer, en gros.
Et donc, au final, vous, malgré tous les moyens qu'ils ont mis, vous n'avez pas connaissance d'avoir été en dehors des coups de fil sur écoute. C'est-à-dire que 100% des mots que tu dis dans la journée sont écoutés à un moment par un flic. Ça, ils n'ont pas osé avoir les moyens et tout, ou alors...
Ils disent qu'ils n'ont pas réussi à mettre la maison de résistance, donc le QG infractionnel, comme ils disaient, sur écoute, parce qu'il y avait tout le temps tellement de monde dans cette baraque qu'ils disent, enfin c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils écrivent en disant on n'a pas réussi à mettre la maison de résistance à Bure, la BZL, sur écoute. Voilà. Et je sais pas. Je sais qu'à l'entrée de la gare de Luméville, c'est une gare qui est squattée, ils avaient mis des caméras qui se détectent comme pour les animaux, qui se détectent au mouvement. Et je crois que ça prend une photo, ou peut-être que ça filme, je sais pas. Un truc à détection de mouvement, donc pour surveiller.
Elle en est où, la maison de la résistance ?
Elle en est où, la maison de résistance ? Et peut-être que ça sera la dernière question. Déjà, il nous reste que 2 minutes. Pas la moindre idée, on m'a dit qu'elle était très propre. C'est ça que j'ai à chaque fois comme nouvelle de la maison de résistance. Je sais pas trop. J'ai des nouvelles des camarades parce qu'à chaque fois, je remonte au procès, etc. Mais je crois que l'avoir été interdite de Bure et de la maison de résidence, ça laisse un peu un espèce de séquelle, quoi. Je suis jamais trop retournée là-bas parce qu'en fait, ça coupe les liens de manière, du jour au lendemain, de manière assez radicale. Et après, tu finis par croire que cette zone, elle était vraiment interdite, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Et voilà, je me suis installée ailleurs. Mais comme beaucoup de personnes, hein, quand t'es interdit de territoire, bon, bah, tu déménages. Peut-être on a le temps encore pour une question avant que je passe la parole. Ou s'il n'y a plus de questions, c'est parfait.
Gilbert va intervenir sur la notion des déchets et la concrétisation, enfin l'aspect concret des déchets, en lien avec Bure et pas uniquement. Précédemment, là, pendant une seconde, je vais dire qui on est. Moi, je suis Jean Revest, ça c'est Gilbert. On est de la coordination antinucléaire du Sud-Est, coordination qui a été créée il y a 15 ans à peu près, par différents militants ou responsables de collectifs qui ne se reconnaissaient plus dans une organisation à laquelle ils étaient adhérents, en l'occurrence le réseau Sortir du Nucléaire, et qui estimaient que l'organisation quasi-pyramidale et la professionnalisation de cette structure-là n'étaient plus pour nous acceptables. Et notamment les aspects un peu de répression interne dans ce réseau qu'il y a eu à l'encontre justement de gens qui étaient un peu plus autonomes et un peu plus alternatifs. Voilà. Donc la coordination s'est créée sur cette base à partir de militants du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence aussi un peu. Voilà. Et elle continue à fonctionner sous forme d'une coordination, donc pas de structure légale, autonomie des groupes et simplement un site internet qui est la vitrine de l'actualité nucléaire et antinucléaire dans notre région. Quoi. Donc la vallée du Rhône, Durance. Quoi. Voilà. Alors on fait des incursions aussi au niveau d'information sur ce qui se passe dans le Var et notamment à Toulon ou ailleurs, enfin sur les autres sites nucléaires. Quoi. Voilà, donc Gilbert.
Alors, j'ai préparé... je m'appelle donc Gilbert Talland, je suis membre donc, de cette coordination depuis des années. Je suis retraité, j'ai été prof de maths pendant des années, puis j'ai défroqué, je suis devenu ingénieur de recherche à l'informatique, mais je ne suis jamais trop intéressé... aux problèmes de technique, des choses comme ça, pendant des années, jusqu'à ce que j'ai été confronté à une conférence au Visiatome. Non, c'était pas au Visiatome, c'était à Tavel, voilà, qui était une confrontation entre Pierre Péguin, que certains d'entre vous connaissent ici, physicien. Et un type, Étienne Vernaz, qui était un directeur de recherche au CEA. Bon. Avant de partir à la conférence où j'assistais, j'ai un petit peu étudié, j'ai tapé Étienne Vernaz, j'ai trouvé des études et tout ça. Je commence à regarder un petit peu. Je tourne quelques pages sur Internet. Puis je me dis, mais il y a des chiffres bizarres, tout ça, là-dedans. Donc, le jour de la conférence, je me permets... où le type a été nul et Pierre Péguin excellent, mais il avait un diaporama comme moi. Je suis pas du tout branché diaporama, mais donc les deux conférenciers qui ont précédé avaient des trucs très chouettes. Moi, j'ai trouvé un truc avec... J'ai pas réussi à enlever les trucs sur le côté. Bon, je suis pas... Je suis pas un spécialiste. J'ai posé des questions à ce monsieur ce jour-là. Et je lui ai dit, j'aimerais bien avoir des réponses à ces erreurs que j'ai trouvées sur votre site, sur le document du CEA que vous avez publié. Et il me donne sa carte. Bon, alors du coup, je me sens obligé de faire un truc. J'ai écrit tout ce que j'avais constaté comme problème, comme erreur, ainsi de suite. Je lui envoie un courrier sous forme de lettre ouverte sur le site de la coordination. Et extraordinairement, il me répond. Et donc, je me retrouve avec des données qui me rajoutent, qui me confortent dans le fait qu'il y a plein de choses qui sont complètement mystérieuses dans ce truc-là. Et c'est plus fort que moi, je me mets à fouiller. Donc je me mets à fouiller et je suis passé de... Alors, ce Étienne Vernaz, en plus, son truc, c'était le verre nucléaire. Donc, le fait que les déchets nucléaires, on a la solution Il n'y a aucun problème avec les verres nucléaires. On a la solution aux déchets. Bon. Donc, je vais essayer de vous présenter quand même l'ensemble de ce que c'est que les déchets, parce que c'est bon de dire que c'est les déchets, c'est le problème du lobby, et que sans ça, ils sont... c'est leur point faible. Le fait est que c'est bien de dire oui, mais quand vous annoncez des choses, c'est faux, et j'en ai la preuve. Et ça, c'est important. Alors, voilà, bon. Alors, bien sûr, bon, parce que je parle de Jean-Marc Royer qui intervient demain, avec qui bon, j'ai beaucoup correspondu, surtout sur son premier livre sur la science creusée de l'inhumanité. Et c'est devenu un peu mon sujet. Mon sujet, c'est devenu... on est dans une société où la science, entre guillemets, que je dirais plutôt technoscience, est devenue une espèce de religion qui a remplacé toutes les religions. L'expert a parlé, c'est la vérité. On a, on s'en est aperçu là récemment avec la pandémie et tous les discours, la doxa, un médecin qui a dit... et puis l'excommunication de tous ceux qui discutent, tout simplement. On est dans ce monde-là. Et je voudrais essayer de vous le prouver avec ce sujet qui est un sujet de cœur, c'est que tout ce qu'ils vont nous raconter, ces gens du CEA, sortis de l'école des mines, sortis du corps des mines, de Polytechnique, ainsi de suite, tous ces gens-là ne font que conforter ce pour quoi on les paye. C'est-à-dire produire quelque chose qui encourage ou qui justifie le nucléaire, ainsi de suite. Alors, le combustible nucléaire, donc, c'est ça. Le discours de la France, essentiellement, sur les déchets nucléaires, c'est que nous, on les retraite. Donc, déjà... On a des solutions, c'est que le combustible usé, on le retraite et on en sort le plutonium, on en fait du MOX, ainsi de suite. Je vais vous expliquer tout ça ensuite. Ensuite, pour ce qui reste malgré tout, ben, on le vitrifie, tout va bien, et à la fin, on l'enterre. Voilà, on a trouvé une solution... à Bure, dans l'argilite, le coffre fort géologique, bon, tout va bien. Alors, ce graphe qui est là, que je vais essayer de vous couper en deux parties pour qu'on le voit mieux, c'est issu de mes échanges avec ce fameux Étienne Vernaz, et sur les chiffres qui étaient complètement incohérents d'un côté ou de l'autre. Tout ce qui va être ébauché là, c'est en détail avec les échanges, avec tous les calculs, avec tout ce qu'il faut sur le site de la coordination. Donc vous allez sur le site de la coordination, si vous voulez retrouver tout ça, parce que moi je me suis essentiellement intéressé à ça, vous tapez Gilbert, vous allez trouver tous ces articles-là. Alors, ah, il s'est encore éteint. Ah, ça y est, qu'est-ce qui se passe ?
Il y a une touche qui
ne
doit pas aller.
Un truc qui ne veut pas aller, bon. Ah, une touche ? Tac, tac. Non, ça a l'air d'aller. Donc, pour résumer comment ça se passe, en haut, vous voyez 8400 tonnes d'uranium. C'est ce qu'on reçoit du Niger, d'un petit peu partout dans le monde. Ces 8200 tonnes d'uranium sont qu'il y a à l'intérieur en gros 0,7% d'uranium-235 qui est la matière fissile. Donc, pour que ça puisse fonctionner dans les centrales, il faut l'enrichir. Donc, il y a un processus de centrifugation où on obtient, vous voyez, en haut, je ne sais pas si vous voyez, on voit le curseur. Oui, c'est bon. On voit, on tire de ces 8400 tonnes, 1050 tonnes de, d'uranium enrichi. Et il reste à 3,5%, ce qui suffit. Ça peut être de 3,5 à 5 selon les pays et les techniques. Et de l'autre côté, évidemment, l'uranium appauvri, il n'y a plus que 0,25. Et il y en a 7350 tonnes. Ça, c'est par an. Hein. Alors, il y a ces 6050 tonnes. Et puis, on va retourner, on voyait en haut à droite, 121 tonnes de MOX. On verra plus bas. Ça va un peu trop vite. On verra un petit peu comment il est produit. Donc, ces 1050 tonnes plus ces 121 tonnes, on trouve 1251 tonnes de combustible. Ça fait fonctionner pendant un an le parc nucléaire. Donc, au bout de un an, ça tourne selon les trucs, mais c'est en moyenne. On se retrouve avec 1251 tonnes de combustible usé, donc il a moins d'uranium fissible. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est la première fois, on le retraite. Alors, on le retraite, il part à La Hague, et là, c'est dans des fours, ainsi de suite, on fait tout un travail d'extraction. D'où on sort, vous voyez, 95% d'uranium usé, donc, qui contient environ 1% de 235, du plutonium et des produits de fission dégueulasses, horribles, qui ont des centaines de milliers d'années, pire que le plutonium là-dedans, qui sortent de là. Alors, ce plutonium, doucement, ça va, c'est resté. Ce plutonium, il va, évidemment, c'est transporté, ça part de La Hague, ça part de La Hague, c'est des transports dangereux et tout, ça va à l'usine Mellox de Marcoule, donc dans mon département, et avec 10 tonnes et demie de plutonium et 110 tonnes d'uranium appauvri, on fait un truc qui s'appelle le MOX et qui remarche. Alors, vous voyez 121 tonnes de MOX qu'on voyait donc là-haut, en haut, la fois d'avant. Oh, oui. Il est pénible. Bon, ce qu'il faut retenir de ça, et ce qui n'est pas du tout dit par Étienne Vernaz dans son... Parce que c'est le truc sur lequel j'ai bossé aussi, ça s'appelait le cycle du combustible nucléaire. Et il y a tout un tas de choses qui disparaissent. Donc, l'uranium appauvri, 7350 tonnes par an, donc on en prend un tout petit peu pour faire le MOX, mais c'est des sommes, des quantités considérables. Et les produits de fission, on les vitrifie. Voilà. Donc, il y a 243 tonnes en bas à droite de déchets ultimes, qui sont donc le MOX usé, parce qu'on ne retraite pas une deuxième fois. On ne retraite pas une deuxième fois, parce que déjà, la première fois, c'est les produits... Ils sont extrêmement dangereux. La deuxième fois, Vernaz, il dit on préfère ne pas retraiter la deuxième fois. Donc, voilà, on préfère, ça veut dire que c'est totalement... c'est un danger pas possible. Et les produits, parce qu'évidemment, chaque fois, ça produit des molécules de plus en plus compliquées et de plus en plus dangereuses. Donc là, ils savent très bien qu'il ne faut pas faire. Donc, on se retrouve avec 243 tonnes de combustible usé. Et en bas, 7500 tonnes quasiment d'uranium appauvri. Alors, l'uranium appauvri, à part le tout petit peu qui sert à faire le MOX, il sert à rien, sauf à faire des obus pour entrer dans les à l'uranium appauvri, pour entrer dans les blindages les plus costauds. Sauf que j'ai calculé que pour une année, il y avait plus d'uranium appauvri que les USA en avaient utilisé pendant toute la guerre d'Irak. Il y en a 20 fois plus que ce que les USA ont utilisé. Donc, où est cet uranium appauvri? Qu'est-ce qui devient? On ne sait pas du tout. De l'autre côté, les 243 tonnes de déchets ultimes, donc ces fameux HAVL, hein, haute activité vie longue, on trouve dans les papiers de Vernaz, parce que c'était on retraite tout va bien, que la capacité maximale de vitrification par an à La Hague, elle est de 50 tonnes. Donc là, vous voyez, il y a encore un hiatus terrible, ces 50 tonnes. Il reste en gros pratiquement 200 tonnes de déchets ultimes dont on ne sait pas ce qui vient, où ils sont, où ils sont gardés. Si... Bon. On est dans cette situation-là. Alors, 180 tonnes, voilà. Hop. Alors, l'atelier de vitrification. Maintenant, on passe à la vitrification. Ils sont donc calcinés mélangés. Alors, il y a toute une étude, ça aussi, j'ai étudié ça, sur les vers. Alors, toute une histoire des vers qui étaient soi-disant le top du top pour tout garder. Et puis, étude de certaines variétés de vers, tout ça. Ils sont arrivés à ce vers R7T7, donc, voilà, qui est le soi-disant le top du top de la résistance du vert. Donc, qu'est-ce qui se passe à 1300 degrés? Il coule ces déchets ultimes dans ce vert et il coule ça dans des colis. CSDV, conteneur standard de verre, donc, dans ces colis qui sont présentés ici. Alors, ces colis, donc après, je calcule tout ça, combien il y en a par an, ainsi de suite. Ils sont, pour l'instant, entreposés dans les piscines de La Hague. Parce que, pour l'instant, Bure, ça reste pas encore actif. Alors, pour ce qui est ces trucs-là, je vous embête un peu, mais c'est important. Dans ces études du CEA que j'ai balayées dans tous les sens, évidemment, ces colis de verre, ils sont destinés à aller dans le laboratoire, hein, enfin donc dans l'enfouissement à Bure. Et évidemment, alors, ils avaient. L'IRSN avait d'abord fait des études pour savoir quels étaient les matériaux les plus commodes au niveau géologique pour contre ça. Ils ont finalement choisi l'argilite plutôt que le granit, qui semblait avoir de meilleurs comportements. Sauf que l'argilite est Bure, c'est il y a moins de monde. En gros, c'est à ça qu'on est arrivé. Et donc, il y a plein d'études du CEA sur le comportement de ces colis qui vont être théoriquement, j'espère jamais, mais mon espoir faibli, enterré dans cette chose-là. Et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut leur arriver, ainsi de suite. Et donc, il y a une étude particulièrement qui m'a intéressé sur l'eau. Donc là, c'est le début. Alors, il y a un élan, je donne les références du document que j'ai du mal à retrouver parce que ça fait 10 ans que j'ai fait ça. Et sur le site du CEA, ils n'y étaient plus. J'ai écrit au CEA, je les ai engueulés, j'ai réécrit. Finalement, ils m'ont donné les liens sur les mêmes documents qui n'étaient plus présents. Alors, ils disent donc, sur le comportement à long terme des vers, dans l'hypothèse, donc je vous le lis, hein, d'un stockage géologique profond de colis de déchets vitrifiés, l'eau souterraine arrivera tôt ou tard au contact du ver, après corrosion des conteneurs et surconteneurs. Ça, c'est le document du CEA. L'altération par l'eau de la matrice vitreuse donc, est le principal facteur pouvant conduire au relâchement de radionucléides. Par ailleurs, la modification du réseau par l'autoradiation, ça peut altérer aussi. Comme on le verra ci-dessous, donc dans leur étude, ces deux effets sont heureusement faibles. Voilà. Sont heureusement faibles. Alors, toute une étude est faite avec des hypothèses, avec des équations, avec un cas qui choisit, ainsi de suite. Après, j'ai eu des débats avec Étienne Vernaz qui avait fait un truc pour les scientifiques où il donnait un chiffre et un truc pour les gens où il donnait un autre chiffre. Il y avait, un facteur 50 entre les deux. Et en fait, sur le document du CEA, c'est cette étude-là, c'était à peu près au milieu, le chiffre qu'il donne. Bon, sachant que, manifestement, c'est des études complètement théoriques sur des choses dont ils savent très, très peu de choses. Donc, voilà, vitesse moyenne d'altération du verre, 0,7 microns par an. Bon, c'est vraiment tout petit, 0,7 microns par an, même pas un micron. Bon, alors, et conclusion de l'article. Ainsi, pour l'ensemble des verres R7T7 du domaine de composition spécifié, les modèles opérationnels voilà, prévoient une durée de vie de l'ordre de 300 000 ans, ce qui garantit des doses relâchées à l'exutoire du stockage bien en dessous des normes édictées par les autorités de sûreté. Alors, 300 000 ans, c'est le diamètre du colis divisé par 0,7 microns. Alors, je crois que vous avez tous compris on prend les gens pour des imbéciles. On prend les gens pour des imbéciles. Effectivement, 300 000 ans, c'est quand il n'y en a plus. Voilà, c'est quand il y a tout. Mais les produits de fission, ils sont répartis dans la matrice vitreuse. Donc, effectivement, il y a tous les éléments pour calculer. Et on s'aperçoit que 0,7 microns par an, ça fait 10 euros, 10 kilos et demi par an, si on considère tous les colis qui sont là-dedans. C'est 0,7 microns par an, ça fait 10 kilos et demi. 10 kilos et demi relâchés, alors ça veut dire qu'il y a de l'eau, ça veut dire que voilà, le laboratoire a été envahi et qu'il y a de l'eau qui circule, et qu'il y a 10 kilos et demi de produits, mais monstrueux en plus, hein, qui sont balancés dans l'environnement. Voilà, la dose létale d'ingestion du plutonium, c'est 5 centièmes de gramme, si on l'ingère. 5 centièmes de gramme, on meurt. Et là, on balance, à partir du moment où ça arrive, 10 kilos et demi. Voilà. Alors, après, Évidemment, on a envoyé tout ça sur le site. Et j'ai quand même eu un débat assez long, et avec des échanges importants, avec un des ingénieurs de l'ANDRA sur cette histoire. Alors, bon, le laboratoire, j'en reparlerai plus loin, mais je vais essayer de faire court parce qu'il y a beaucoup de choses. Et on passe donc au laboratoire, entre guillemets, Bure, l'argilite. Alors, il faut savoir que les études de la résistance de l'argilite au rayonnement et tout ce qui pouvait arriver ont été faites avec de l'argilite de tournemire. Parce qu'avant avant qu'ils aillent à Bure, ils ont fait ça, c'est dans le Massif central, je crois. Ils ont fait des études là-dessus. J'ai tout un blabla sur de l'ANDRA, sur ce truc-là, avec lequel on a beaucoup discuté. Alors, évidemment, ça, c'est important. Le 4 août 2013, donc il y a 10 ans, Michel Guérite, à l'ANDRA, quand on allait visiter au départ le laboratoire, l'ANDRA faisait visiter, il donnait des échantillons d'argilite pour nous dire, vous voyez, c'est dur, c'est costaud. Et donc Michel Guérite, il en récupère, et il récupère de l'argilite de tournemire. Bon, je ne sais pas si je vais vous faire regarder le truc, ça dure 5 minutes, mais... Ouais, non, j'accélère. Alors, en gros, Michel Guérite, il met un morceau de tournemire dans un verre, un morceau de bure dans l'autre. Et il attend. Et il tourne un peu le verre, il secoue un peu. Et puis, bure, au bout d'un quart d'heure, 16 minutes exactement, c'est complètement décomposé. L'autre tournemire, il faudra qu'il attende le lendemain matin pour que ça se décompose. Donc, sachant que Hassan a fait des études avec tournemire, et puis on met à bure, et à bure, bon, ça tient infiniment moins. Donc, il est clair qu'il y a un problème de flotte. Donc, Michel Guérite envoie son truc à l'IRSN, qui lui fait une réponse en disant « Non, mais il n'y a pas de souci. C'est parce que vous êtes dans des conditions particulières, alors que dans le laboratoire, l'argilite, elle est compressée. Et au contraire, s'il y a de l'eau, les micro-fissures se comblent, au contraire, avec de la dilatation. Ouais. Alors d'abord, ils ne répondent pas. Alors j'ai envoyé 6 questions ouvertes à l'IRSN, qui là n'a pas répondu. Qu'est-ce qui se passe s'il y a le moindre mouvement de terrain ? Déjà, dans la réponse de l'IRSN, ils sont inquiets, malgré tout, sans le dire, même s'ils disent que non, ça craint rien, mais du fait que les excavations avec creuser le laboratoire, creuser les galeries, ainsi de suite, ça fait du dégât et donc ça fragilise le truc. Donc ils donnent il donne des consignes pour consolider la perturbation, voilà, par rapport à la sensibilité de l'eau qui pourrait s'exprimer, mais il fallait justifier de dispositifs de maîtrise des eaux. Donc, et là, actuellement, c'était il y a 10 ans, ils extrayaient déjà 80 mètres cubes d'eau tous les jours qui étaient du creusement du laboratoire. Donc il y a de l'eau là-dedans. Et voilà. Alors, oui, j'ai trouvé ça aussi. On trouve des choses extraordinaires. Voilà. Sur 500 millions sur 500 000 à 1 million d'années à venir, il apparaît que les directions d'écoulement évolueront relativement peu. Il apparaît, voilà. C'est, voilà. Sur 500 000 à 1 million d'années. Hein, ça, c'est l'Andra qui balance des choses comme ça. Alors, là, on est sur l'argilite, sa fragilité à l'eau particulière. Je ne suis pas le seul à avoir bossé sur ces sujets-là. Il y a plein de gens qui ont fait des cahiers d'acteurs, ainsi de suite. Il y a des risques d'explosion, il y a tout un tas de problèmes sans nom. Et évidemment, tout tient, soi-disant, aux conteneurs et surconteneurs en acier. Mais c'est les conteneurs et surconteneurs en acier, c'est toujours pareil, c'est la flotte, c'est ce qu'il va y avoir de l'eau et de la corrosion. Et donc, du coup, ils ont dit, on a eu des échanges avec le mec de l'Andra sur le fait qu'ils ne ventilent pas les galeries pour limiter la corrosion. Donc, si limiter la corrosion, on ne ventile pas, on laisse chauffer indéfiniment. Donc, on a des choses qui chauffent de manière extraordinaire, avec autour. Alors, en plus, on sait que on sait très bien que l'argilite, c'est pas un truc. C'est pas de la pure argilite partout, il y a des mélanges de roches et tout, c'est loin d'être quelque chose de fiable sur ce sujet-là. On est dans un truc. Alors, bon, sur le site de l'Andra, qu'est-ce que je vous raconte là? Ah ben voilà, j'en suis à la conclusion en fait, hein. Le 8 juillet 2022, 8 juillet dernier, le journal officiel a publié le décret reconnaissant l'utilité publique de CIGEO. Malgré toutes les études, malgré tout. Elle n'autorise pas la création du centre de stockage. Cette autorisation devrait venir de l'ASN à la fin de l'année 2022. Alors en fait. Je suis allé sur le site de l'ASN, il y a eu une audition de l'Andra par l'ASN le 20 décembre, et ils ont demandé à l'Andra de déposer la demande d'autorisation. Voilà. Ce dossier sera instruit par l'ASN, voilà, avec le soutien de l'IRSN, si elle existe encore. Donc, le dernier recours, si on veut arrêter la machine sur le plan légal, ça reste l'ASN. Je rappelle qu'avec avec Jean Revest et puis les gens de la coordination, on avait monté un site main où on a essayé de s'attaquer, entre guillemets. On avait monté un dossier en demandant aux gens qui se connectaient au site de se faire une demande, comment ça s'appelle, une mise en demeure de l'ASN d'arrêter les cuves, ainsi de suite, toutes les activités nucléaires qui risquaient de donner un accident, et donc avec pour mise en danger de la vie d'autrui. Ça a très très peu marché. Pourtant, on avait un dossier solide. Les gens du réseau sortir du nucléaire nous ont ignorés lamentablement. Les gens qui ont participé étaient chauds, bouillants pour aller plus loin, c'est-à-dire passer de la mise en demeure à une plainte, parce qu'on s'aperçoit dans ce pays que les plaintes déposées localement par des justiciables sur les tribunaux locaux ont beaucoup plus de chances d'aboutir que sur les tribunaux nationaux qui sont aux ordres. Voilà. Bon, je conclus. Retraitement, manipulation de chiffres, disparition de quantité de combustible, vitrification, manipulation sur le fait que c'est sans danger, qu'il faudra 300 000 ans pour que ce soit vrai. C'est une étude scientifique, il y a des équations partout. Ça commence par un truc comme ça, il y a 0,7 micron au début, et à la fin, on vous dit qu'il faut attendre 300 000 ans pour qu'il y ait des problèmes. C'est complètement incroyable de lire ça. Et sur l'enfouissement, bon, ben, tous les problèmes qu'on vient de voir sur Bure, et puis tous les autres, les risques de l'hydrogène, d'explosion, tout ce qui considère ce truc-là. Donc, et voilà. Donc, madame, la science ne l'entend pas ainsi. Évidemment, l'urgence absolue, c'est d'arrêter d'en produire des déchets, parce que pour l'instant, on ne sait pas qu'en foutre. Voilà. Alors, j'avais mis le truc, le 3 juin, qui était sur le site de la coordination, mais donc, manifestement, c'est...
C'est décalé sur Paris,
ou même pas sûr, elle a dit la copine, ouais. Voilà.
La seule question ? Il y a l'échange ?
Il y a l'échange.
Toujours pareil, si vous voulez le micro, je vous l'apporte.
Ça, je le ferme.
Attention, tu vas être vu à l'écran.
C'est fait, tant pis. Alors.
Oui, alors ça marche. Donc au final, on a pas choisi le granit, mais l'argilite, où il y a beaucoup plus d'eau qui passe. Mais du coup, est-ce que même si on aurait. À quel point, par exemple, il y a une différence entre le granit, les infiltrations d'eau, et l'argilite, si justement il n'y avait pas ces considérations biaisées de on veut un endroit où il n'y a personne pour protester, pour que le maintien de l'ordre soit plus facile. Et est-ce que. Et par rapport aux 10 kilos de produits finis par an, que c'est ça qui prévoit, quelle est la quantité d'eau qui, du coup, dans lesquels ils vont, enfin, qui va les emporter, tous ces produits finis.
On sait qu'il y a 80 mètres cubes par jour qui sortent de là et qui pompent. La question, c'est que ils disent l'argilite, tout ça, le béton, tout ça, c'est solide et tout ça. Bon. J'ai recensé, mais je n'ai pas partout ça, les différents tremblements de terre qu'il y a eu dans l'histoire, dans ce truc-là, avec des forces parfois loin d'être négligeables, alors qu'ils prétendent le contraire, mais on trouve hein, sur le BRGM, sur des choses comme ça. Jamais, avec le type de l'Andra, je n'ai eu de réponse sur le risque. Comment ça va se comporter si ça bouge. À l'IRSN, comment ça va se comporter dans les fentes, ainsi de suite, si autour du toit. Jamais j'ai eu une réponse sur la taille. Parce que c'était bien beau de dire qu'avec l'eau, les micro-fissures se comblent. C'est quoi une micro-fissure? Et à partir de quel moment et quelle taille de fissure? Ça ne se comble pas, et au contraire, ça circule comme dans le verre de Michel Guérit. On est dans... On ne sait pas. Puis on ne sait pas ce qui peut se passer. Théoriquement, au bout de 100 ans, le truc est censé, ça y est, être définitif, puisque pendant 100 ans, il est censé être réversible, ce qui est une aberration. En plus, il ventile pas les... Enfin, ils ventilent les galeries, soi-disant, mais pas les conteneurs. On est dans un truc complètement fou. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Il peut y avoir des bombes au-dessus, les gens qui ont complètement oublié ce qui se passait là. On est dans quelque chose, des gens qui font des forages. C'est complètement aberrant. De faire une chose pareille. Alors, on est... Je ne sais pas comment dire, mais on est quelque part dans une situation où on ne peut plus avoir confiance en rien ni personne qui se dit expert. c'est plus possible. On est dans une situation où les gens du CEA... Moi, j'ai l'avantage, hein, je ne suis pas scientifique. Je suis prof de maths, j'ai mes diplômes, j'ai fait de l'informatique, j'ai des diplômes. Mais je ne dépends de rien ni de personne. Je ne suis pas dans un labo. Je n'ai jamais publié des trucs avec revues, avec des pertes complètement bidonnées, comme on voit maintenant. Je n'ai pas besoin d'argent et de faire le CEA qui est payé, les gens du CEA et de l'IRSN, ainsi de suite, qui sont payés pour que le nucléaire continue. Comment faire confiance à ces gens-là ? Comment faire confiance à ces gens-là qui, depuis, on en parlait tout à l'heure avec Philippe, comment faire confiance à ces gens-là qui se sont trouvés, avec Serge, ravis de l'extraordinaire expérience de la bombe d'Hiroshima ? Le jour où ça s'est produit, et que les scientifiques ont trouvé ça magnifique, finalement. Hein, bon, il y a des machins, mais quand même, qu'est-ce qu'on est fort, qu'est-ce qu'on est puissant. Ce jour-là, la science a basculé vers quelque chose qui ne peut plus jamais nous comprendre. On est dans un monde de technoscience, les gens sont payés pour faire tel ou tel, ou produire tel ou tel résultat. Et c'est essentiellement le but de ce que je voulais dire. On ne peut pas leur faire confiance. C'est impossible de leur faire confiance. Voilà.
Oui, merci. Moi, j'ai deux questions. Oui. La première, donc ça fait une bonne trentaine d'années qu'on produit des déchets via les centrales nucléaires, qu'on les retraite plus ou moins, qu'on les vitrifie, puis qu'on les met de côté en attendant que Bure soit construit. Je me demandais donc combien de temps Bure... est-ce qu'on n'a pas déjà trop... Enfin, moi, j'avais entendu dire qu'on avait déjà presque trop de déchets par rapport à la capacité de Bure, et que de toute façon, ce serait très probablement bientôt saturé. Donc je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Et la deuxième question, c'était à propos des déchets qu'on avait tenté de balancer dans la mer. Quel type de déchets c'était ? Il me semble que là aussi, on n'arrivait pas à suivre le devenir de ces fûts. Ouais. Et si vous en savez un peu plus... Et je ne sais pas quel type de déchets, si c'était les hautement radioactifs, on avait mis dans ces fûts.
Peut-être que tu en sais plus que moi. Effectivement, on sait, mais je ne sais pas si on en connaît la nature, parce que de toute manière, tout ça a été fait de manière sauvage et secrète. Donc, quelle est leur nature exacte ? C'est très, très difficile à savoir. De toute manière, des fûts dans l'eau de mer, c'est exactement ce qui va se passer à Bure quand l'eau y pénétrera, comme l'a prévu l'étude du CEA. Alors, capacité de Bure, c'est difficile à dire parce que, d'abord, comme je vous l'ai démontré, je crois qu'ils sont à 18 000 colis actuellement qui traînent dans les piscines. A priori, ils creusent des galeries. On peut se dire que ils vont peut-être finir par tout mettre, a priori. Sachant que on est parti sur des EPR, on est parti sur un truc complètement délirant, donc c'est et que évidemment, comme je l'expliquais, il y a une quantité considérable de déchets nucléaires dont on ne sait pas où ils sont.
Ce qu'on sait, c'est qu'ils mènent déjà des recherches, enfin, pour identifier de nouveaux sites d'enfouissement. Voilà. Alors, c'était le cas déjà avant la décision prise à Bure, hein, prise sur Bure, puisqu'il y avait d'autres sites qui avaient été explorés, comme à Tricastin, dans notre région, donc qui étaient en ligne de mire d'un possible enfouissement de laboratoire tel à Bure. Aujourd'hui, les stocks officiellement quantifiés par l'ANDRA, donc l'Agence nationale de gestion des déchets nucléaires, quand on compare les chiffres, effectivement, de l'ANDRA et les chiffres du laboratoire qui doit devenir le site d'enfouissement de Bure, on s'aperçoit que c'est déjà effectivement quasiment à saturation, sans que s'ajoute tout ce qui est produit à partir d'aujourd'hui, on va dire, par les centrales nucléaires et les autres installations nucléaires. Parce qu'il n'y a pas que les centrales nucléaires qui génèrent du déchet.
Non, bien sûr.
Marche pas, voilà. J'avais juste une petite question technique sur l'histoire des colis non ventilés, parce qu'à Bure, justement, on parlait des cheminées qui sont là pour ventiler, parce que sinon l'hydrogène fait exploser, si j'ai bien compris. Donc voilà, je voulais comprendre un petit peu ça.
A priori, non. Pour les HAVL, donc ceux qui sont de haute activité, il est prévu de les enfouir dans des conteneurs sur conteneurs fermés, non ventilés. Pourquoi non ventilés ? Parce que dans les échanges qu'on a eus avec le type de l'ANDRA, l'air est pire que l'eau, quelque part. L'air, c'est lui qui permet l'oxygénation et donc l'oxydation des conteneurs et surconteneurs. Donc on est dans cette dynamique-là. Il y a toute les galeries sont accessibles et ventilées. Et donc là, il doit y avoir des cheminées, effectivement, qui montent. Mais a priori, les alvéoles et les conteneurs sur conteneurs, eux, sont confinés et non ventilés. Donc, mais ça paraît une aberration, parce qu'effectivement, non ventilé, ça veut dire que ça va chauffer d'une manière absolument considérable. C'est des produits radioactifs, c'est de très haute intensité. Donc, c'est clair qu'il y aura des conséquences sur tout ce qui est autour. C'est, ce fameux coffre-fort géologique. Voilà. Mais effectivement, les cheminées, c'est pour les galeries.
Non, mais la personne avant parlait d'hydrogène radioactif qui passait dans les cheminées. C'est pour ça qu'on se pose la question.
A priori, si ça se corrode, qu'elle rentre et qu'elle est une suite comme ça, il y aura effectivement de la radioactive qui va remonter, bien sûr. Tant que ça n'arrive pas actuellement, ces espaces confinés, l'hydrogène et les risques d'explosion, ils sont internes. C'est pour ça qu'ils ne ventilent pas, d'ailleurs, parce qu'il y a tout ce risque d'explosion à l'intérieur des conteneurs et des surconteneurs. Ouais.
Dans votre diagramme, il y avait écrit URE. Et c'est quoi URE dans la liste ? Il y avait MOX, produit de fission, et URE.
C'est l'uranium de retraitement.
Ah oui, qu'on récupère voilà. De l'uranium qui n'a pas voilà. L'uranium fissible qui n'a pas réagi.
Voilà, c'est l'uranium qui est issu du retraitement, puisque on le retraite, on le réenrichit une fois. Voilà. On extrait le plutonium et on réenrichit le premier combustible usé. Voilà. Mais ça, donc, les détails, hein, parce que on le trouve sur le site, hein, coordination nucléaire, on trouve tout le site, ou Gilbert, ou Étienne Vernaz, ou un truc comme ça, les recherches, vous allez retrouver tous les échanges, il y a plus plein d'articles avec l'IRSN, avec plein de choses sur le plan technique. A priori, tous les échanges y sont. Et avec l'ANDRA, tous les échanges y sont aussi. Parce que effectivement, j'avais écrit à un moment donné si si je ne sais plus très bien, si l'air est corrosif, qu'en est-il de l'eau, enfin, un truc comme ça. Et c'est là qu'il m'avait répondu pourquoi c'était l'air et pourquoi et ainsi de suite, hein, tout en détail. Ça, on trouvera tous les échanges hein, sur le site. Ouais, c'est, Oui.
Je sais qu'en France, on est les meilleurs au monde, bien sûr, mais je crois savoir qu'il y a déjà eu quelques tentatives. Alors évidemment, c'est pas comme à Bure, aux États-Unis, d'enfouir des choses, je crois aussi en Allemagne.
Ah, c'est vrai.
Pas exactement la même chose. Et il me semble que ça n'a pas tenu 300 000 ans.
Ah non, à ceux, ils ont été obligés. C'est une mine, ils ont choisi une mine de sel. Et puis, au bout de quelques années, eh ben, ils sont repartis avec des pelleteuses. Ils sont allés rechercher les colis au fond. Et c'est pas fini. Hein. Ils ont pas tout vidé. C'est la folie douce de pouvoir enterrer ces saloperies.
Et aux États-Unis, donc à WAPS. Ça a pris feu il y a quelques années avec des blessés, des morts, et ils ont dû envoyer des équipes spéciales pour tenter d'éteindre l'incendie. Ils y sont parvenus. Évidemment, il y a eu des rejets radioactifs, et quelques mois après, une fois que tout était rentré dans l'ordre et qu'ils avaient repris le travail habituel d'enfouissement de colis de déchets radioactifs, un nouvel incendie s'est déclaré. Donc on voit bien, et WAPS n'avait pas 50 ans d'existence, quoi. Donc quand il parle de 300 000 ans ou de déchets qui auront 1 million d'années, on voit bien que scientifiquement et même rationnellement, c'est impossible de prédire ce qui va se passer dans 100 000 ans, quoi. Quand on sait qu'une civilisation, c'est qu'elle soit égyptienne, aztèque ou autre, allez, on va dire 5000 ans maximum, quoi, et que la nôtre n'a que 2000 ans. Hein. Donc,
J'ai cru voir dans une des dernières pages que vous affichiez que vous faisiez part de votre pessimisme en toute généralité sur la question de la gestion des déchets. Si on pose une hypothèse hautement plus optimiste, vous allez voir, c'est cavalier, je vous laisse juger, l'hypothèse d'une situation post-révolutionnaire. Les forces révolutionnaires triomphent, mettent la main sur l'appareil industriel, ce qui serait légué de gré ou de force par le capitalisme. Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a la moindre chance d'aller assurer des conditions de sécurité minimales, ne serait-ce qu'à l'AC, dans les piscines, ne serait-ce qu'en termes de gestion courante de centrales nucléaires, de la filière dans son intégralité, de tous ces déchets dont on ne sait pas du tout où ils sont. Est-ce qu'une telle chose est envisageable et selon quelle urgence?
C'est la dernière question.
Oui, c'est une très bonne question. Je crois que si les colis sont là-dessous, bon, soi-disant, pendant 100 ans, on pourra aller les récupérer. Après, en faire quoi, effectivement, l'histoire de la fusée ou un truc comme ça. Mais actuellement, la meilleure des solutions, c'est de les laisser dans les piscines. Mais ils s'entassent. Hein. C'est les laisser dans les piscines parce que, bon, elles ne sont pas comme à Fukushima, elles sont quand même enterrées, relativement solides. Bon, normalement, elles ne devraient pas être trop accessibles à des missiles, des trucs comme ça. Mais on ne sait pas. On ne sait pas quoi en faire. Et effectivement, si Bure Alors, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que c'était il y a 10 ans hein, où j'ai eu tous ces échanges avec ces gens et tout. J'ai eu du mal à m'en remettre, de me remettre dedans, parce que ça me fait du mal de voir à quel point on ces manipulations. La solution n'existe pas, bien sûr, mais à l'époque, il disait qu'ils retraitaient encore pendant un an ou deux des combustibles usés venant de Russie. Bon, mais que ça allait s'arrêter. Donc, dans les calculs que j'ai faits, j'ai tenu compte de ce truc-là. Bon, on a appris récemment que on avait livré, on s'était fait livrer de Rosatom de l'uranium enrichi, pas par nous, donc, par les Russes. Là, il y a un mot ou deux, je ne sais plus. Hein,
uranium de retraitement.
De retraitement, oui, il me semblait que c'était de l'uranium enrichi.
URT,
d'accord. Voilà, on est. je ne sais pas que dire. On a, honnêtement, même si on faisait la révolution et qu'on met ça en main, bon, je suis vieux, je suis pessimiste. Hein, je vois pas de solution. Vraiment, je vois pas de solution. Et surtout, d'autant plus que on continue. Bon, si le monde entier se retrouve avec une quantité de déchets radioactifs limitée et tout ça, on sait, c'est là, tout le monde sait, bon, comment on va faire, pour l'instant, on ne sait pas, mais bon, on les garde bien au chaud, c'est le cas de le dire. Bon, on peut envisager ça, mais d'abord, il faut arrêter. Il faut arrêter d'en produire. C'est une aberration la plus totale de continuer ça. Alors c'est vrai que bon, la coordination, nous on est pour l'arrêt immédiat du nucléaire. Ça a l'air fou. Ça a l'air fou de dire ça. Mais on court à l'accident majeur et on est envahi de ces trucs dont on sait que faire et qui vont nous péter dans les doigts. J'ai du mal à faire une réponse optimiste. Voilà.